Santé, c'est bon pour la santé.
Il se dandine derrière sa console, Jean-Sébastien La Liberté créateur de cette très belle ouverture de l'émission C'est bon pour la santé. Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes avec grand plaisir sur Canal M. Aujourd'hui, on discute avec Jessica Dessureau du côté de Victoriaville. Elle s'occupe du projet pilote PictoSécure, mis sur pied pour la sécurité des personnes aînées dans cette municipalité. Aussi, à quelques jours du Salon de l'autisme TSA du Québec, qui se déroule du 30 septembre au 1er octobre, là, on est vraiment à deux jours de cette grande première. On parle de massage spécialisé pour les enfants en besoins particuliers avec Mélissa Boulanger. Elle est massothérapeute et maman de deux garçons qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme. Aussi, Delphine Berger, coordonnatrice des services jeunesse, présente le projet « Connais-tu la limite? ». Elle est du côté du Y des femmes de Montréal et c'est un projet qui permet aux jeunes d'aborder le consentement sexuel. Et dans quelques minutes, là, dans à peu près 10 minutes, Benoît Méringuer sera là, lui qui est neuropsychologue, auteur et directeur de la clinique Clinique d'évaluation et réadaptation cognitive. On parlera du comportement d'opposition chez les enfants. C'est en lien avec cette sortie de livre, L'opposition, ces enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs aux éditions Midi 30. Mais juste avant, dans quelques instants, Anne-Laure Janson est là pour nous livrer sa revue de presse santé de la semaine. Bonjour Anne-Laure Janson.
Bonjour Marianne.
À la recherche de cette émission et là pour nous livrer cette revue de presse, on débute par une journée importante, Journée mondiale de la rage.
Oui, modeste revue de presse, mais aujourd'hui on souligne la Journée mondiale de la rage, supportée notamment par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, cette journée est marquée chaque année pour sensibiliser à la prévention et mettre en avant les progrès accomplis pour vaincre cette maladie. Le 28 septembre est aussi la date anniversaire du décès de Louis Pasteur, chimiste et microbiologiste français qui a mis au point le premier antirabique. Le thème de cette année est la rage, éduquer, vacciner, éliminer. Il souligne les deux mesures cruciales que les communautés peuvent prendre pour la prévention de cette maladie. Et on y retrouve notamment la cible mondiale d'éliminer tous les décès humains due à la rage transmise par les chiens d'ici 2030.
Mm-hmm. Avec ce nouvel règlement de la ville de Montréal émis hier, ça risquerait peut-être moins d'arriver, du moins ici sur l'île de Montréal. Bien sûr, c'est une boutade. On poursuit, Anne-Laure, avec un programme, un très beau programme, Music and Memory, qui a été lancé du côté de Lanaudière et qui permet, de par la musique, d'éveiller le cerveau des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer.
C'est ça, c'est un nouveau programme donc, que la Société d'Alzheimer de Lanaudière a mis sur pied. Un programme qui exploite le lien intrinsèque entre la musique et les souvenirs personnels. Donc intitulé « Music and Memory », il a été lancé d'abord par un organisme non lucratif créé aux États-Unis en 2010. La Société Alzheimer de Lanaudière vient de recevoir la certification du programme Music and Memory en septembre. À l'écoute d'une de ses chansons préférées, l'intervenante psychosociale qui a reçu la formation raconte que l'une de ses patientes s'est littéralement éveillée, s'est mise à danser au rythme de la musique, selon une vidéo qu'a pu consulter l'Action Journal de Transcontinental de Lanaudière. Alors, l'écoute de la musique personnalisée diminue la douleur et le stress, stimule le cerveau, favorise un profond sommeil et aide à faciliter le langage, selon cette intervenante Jessica Violette.
Mmh. Et ça, c'est du côté de la société d'Alzheimer de la Naudière. Hein?
Tout à fait.
C'est Music and Memory, parce qu'il y en a dans différentes sociétés d'Alzheimer partout au Québec. C'est un très, très beau programme. J'ai fait une entrevue là-dessus l'an passé avec la directrice des sociétés Alzheimer du Québec. Donc, peut-être qu'on pourra mettre le lien là, pour retrouver l'entrevue et découvrir davantage ce très beau programme qui peut aider et les familles et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Maintenant, un lien entre le virus du rhume et la sclérose en plaques?
Oui, un méchant virus du rhume. Donc, des chercheurs québécois et britanniques auraient découvert pour la première fois une neuropathologie associée à une souche du coronavirus humain, une percée qui pourrait confirmer le bien fondé de l'hypothèse du professeur Pierre Talbot du Centre Institut Armand Frappier, voulant que ce virus, responsable d'environ un rhume sur cinq, puisse causer certaines maladies neurologiques d'origine inconnue, comme la sclérose en plaques, l'Alzheimer, le Parkinson ou l'encéphalite. Alors, en entrevue au Soleil, le journal Le Soleil, lundi, le professeur Pierre Talbot se réjouissait de cette avancée. On avait démontré il y a une quinzaine d'années déjà que le coronavirus humain persistait dans le cerveau des personnes, mais on n'avait pas encore prouvé qu'il pouvait causer des maladies. Le coronavirus chez une souris, poursuit-il, cause une maladie qui ressemble à la sclérose en plaques. Ça fait longtemps que j'essaie de démontrer que ça peut causer la même chose chez l'humain. Ce n'est pas fait encore, mais l'avancée dont on parle aujourd'hui nous démontre que le coronavirus peut causer une maladie neurologique grave et mortelle, résume le professeur Talbot, qui, selon lui, cette découverte permettra d'utiliser des traitements plus spécifiques, mieux adaptés, sous la forme d'antiviraux, à la condition des patients immunodéprimés.
Ah oui, c'est vraiment fascinant. Donc, un chercheur du côté de Québec, c'est ça, là?
Oui, de Québec et de Londres, en fait. C'est un partenariat Québec-Angleterre, Royaume-Uni.
Assez intéressant et porteur d'espoir. En terminant, un service de proximité pour briser l'isolement du côté des personnes âgées. Du côté des Chic-Chocs, en fait, en Gaspésie.
Oui, c'est ça. Ça se passe au Centre d'action bénévole des Chic-Chocs qui a lancé ce nouveau service de proximité, en fait, visant à former des bénévoles qui iraient à la rencontre des aînés isolés dans le coin des Chic-Chocs. Donc, la vocation du Centre d'action bénévole s'est précisée ces dernières années et axe davantage ses actions sur le soutien aux aînés. Dans cette veine que la coordonnatrice de ressources de proximité a mis en place un réseau de bénévoles afin de couvrir Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts. Donc, ils débutent dans ces deux municipalités, puis ils verront ensuite comment étendre ce service à l'ensemble de la MRC. Jacques Normand, par exemple, est un des premiers bénévoles à avoir été recruté pour ce service. Pour lui, le rôle des gens qui feront des visites d'amitié aux aînés est de les soutenir et d'offrir une présence rassurante. Parfois, ça peut être aussi simple que de faire un téléphone auprès d'une compagnie. Les aînés sont souvent gênés de demander à leurs proches. Il faut que les bénévoles leur fassent sentir qu'ils ne dérangent pas. Après tout, ils ont donné beaucoup. C'est normal qu'on leur redonne à notre tour.
Et peut-être qu'en région si éloignée, telle que la Gaspésie, l'isolement est encore plus grand chez les personnes âgées. Visite d'amitié, c'est un très beau terme.
Oui.
On le recevra peut-être, en fait, les gens derrière cette initiative.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Anne-Laure Janson, pour cette revue de presse.
Merci.
Benoît Méringard, bonjour.
Bonjour Marianne.
Neuropsychologue, auteur de ce nouveau bouquin « L'opposition, ces enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs ». J'ai Mehdi Trente, directeur de la clinique d'évaluation et réadaptation cognitive. Je commence par vous flatter, Benoît Méringuer. Je parlais avec une maman hier qui me disait qu'elle vous voyait comme un dieu.
Mon dieu!
Elle-même ayant des enfants qui vivent avec ce trouble de l'opposition. Je vais vous demander tout à l'heure de lui dédicacer ce livre.
Avec plaisir.
Que je lui remettrai la semaine prochaine. Le trouble de l'opposition, ça se traduit de quelle façon?
Bien, il y a deux choses. Il y a le trouble de l'opposition, et là, on parle d'enfants qui, depuis un très jeune âge, sont difficiles à gérer pour les parents. C'est des enfants là, qui ont toujours cherché à contredire les règles. On dirait que c'est des enfants qui ne veulent pas plaire aux parents et qui ne cherchent pas les félicitations et le renforcement et les bravos. Donc, ça ne les motive pas à bien agir. Et un peu depuis le début de leur vie, là, jusqu'à l'âge du primaire, à l'école, c'est des enfants qui sont difficiles à gérer pour les parents. Et là, on parle vraiment d'un trouble de l'opposition dans ce cas-là.
Mm-hmm.
Puis l'autre chose que moi j'amène dans mon livre, c'est que dans la plupart des cas, c'est pas tant le trouble, mais ce sont des comportements d'opposition qui, eux, sont secondaires à autre chose. Souvent, c'est l'enfant qui a vécu différentes choses dans sa vie, et c'est de ça dont on parle dans le livre, là, qui vit différentes choses, qui vit en fait une détresse, qui n'est pas bien, et ça se manifeste par de l'opposition, par des comportements désagréables, parce qu'en fait, cet enfant-là n'est pas bien et est en détresse.
Est-ce qu'il y a un événement qui va perturber cet équilibre-là, où l'enfant naît déjà avec ce besoin d'opposer les adultes et son environnement?
Bien, les deux se peuvent. Donc, le vrai trouble, c'est l'enfant qui naît avec cette personnalité-là, un petit peu difficile. On a chacun notre couleur quand on naît, notre personnalité quand on naît. Il y en a dont la personnalité est d'entrée là, plutôt en confrontation. Alors ça, c'est ceux qui l'ont de naissance, mais il y en a vraiment qui se voient perturbés dans leur équilibre par exemple, une séparation des parents ou des conflits à la maison ou de l'intimidation à l'école ou de l'anxiété. Différents événements de vie qui amènent le jeune à se retrouver mal avec lui-même, puis dans ce mal-être-là, de manifester ça par de l'opposition à la maison, des comportements désagréables, de l'opposition avec les frères, les sœurs, des crises et tout ça.
Benoît, est-ce qu'on peut penser à des enfants qui vivent avec d'autres troubles, par exemple celui du déficit de l'attention?
Bien, tout à fait. C'est souvent associé au déficit de l'attention sans l'être tout le temps. Alors, il faut voir, le déficit de l'attention peut faire que le jeune est tellement inattentif que lorsqu'on lui demande une consigne, bien, elle lui passe un petit peu entre les deux oreilles, il va faire « mm-hmm » comme s'il l'avait entendu, mais au final, il reste concentré sur ce qu'il faisait, il n'exécute pas notre consigne. Et là, le parent peut interpréter ça comme quoi il s'oppose. Hein? Il ne veut pas faire ce qu'on lui a demandé. Ou il y a encore les enfants plus hyperactifs qui, eux autres, sont tellement attirés par tout ce qui se passe autour d'eux que lorsqu'on leur demande d'aller prendre leur douche, par exemple, en chemin, ils sont attirés par un jouet, puis ils se mettent à jouer avec, et puis ils perdent la consigne de vue. Souvent, ces jeunes-là, c'est pas un vrai trouble d'opposition parce qu'ils sont bien désolés, au final, de ne pas avoir exécuté la consigne.
Ouais.
Ils voulaient plaire, ils voulaient le faire, mais ils ont été soit distraits, soit attirés par autre chose, puis ils n'exécutent pas, puis là, on interprète ça un peu comme de l'opposition.
Vous parlez aussi dans le livre du vase trop plein. C'est une image qui est extrêmement parlante. En tant que parent, en tant qu'enseignant aussi, comment on peut détecter là, qu'on sera la goutte qui fera déborder ce vase-là?
Bien, souvent, ça, c'est une belle image, je trouve, pour les enfants qui sont anxieux. C'est les enfants qui vivent un petit peu toute la journée des stress, qui sont toujours en train d'accumuler des émotions dans leur journée à travers ce qu'ils vivent. Puis ils arrivent à la maison, ils ont géré toute la journée en étant calmes et tranquilles à l'école, là. Ils ont géré toute la journée, puis à la maison, bien là, ils sont plus capables. Et là, il suffit qu'on leur dise non pour un biscuit avant le souper, puis ça explose en crise. Ça devient terrible. Et c'est pas tant le biscuit le problème. Puis c'est ça l'erreur souvent des parents, c'est d'aller argumenter que c'est pas si grave, que le biscuit, ils vont l'avoir après le souper. Puis... Mais en fait, il n'est pas là le problème. Le problème, il est tout ce que l'enfant a vécu d'autre dans sa journée et qui ressort à cause du biscuit, qui fait déborder. Hein? C'est la goutte qui fait déborder. Puis ce qu'on peut voir à ce moment-là, c'est des enfants qui sont plus tendus de façon générale, puis qui sont plus émotifs. Puis j'imagine qu'en fait, être accompagné d'un professionnel comme un psychologue peut nous aider à cibler ça.
Ou un neuropsychologue, bien
exact.
Sûr. Je comprends qu'il y a une différence entre le trouble de l'opposition et les comportements. Comment on peut vraiment faire la différence entre les deux?
Souvent, les comportements d'opposition sont apparus suite à quelque chose.
OK.
Puis les parents n'arrivent pas toujours à mettre le doigt dessus. Quand on se rend compte, on arrive davantage à mettre le doigt dessus. Mais souvent, les parents vont dire il n'était pas comme ça avant, il est pire maintenant. Alors, les comportements sont empirés ou sont apparus à un moment donné alors que ce n'était pas comme ça avant. Donc, ce qui nous laisse croire que ce sont plutôt là, des comportements réactifs à quelque chose.
OK. Tandis que le trouble de l'opposition, c'est pas mal à la naissance.
Ah oui, dans la première année et demie, on voit un enfant qui est difficile déjà à gérer pour les parents.
Mm-hmm. Est-ce que pour les comportements d'opposition, on peut également aller chercher de l'aide de professionnels?
Tout à fait. Donc, que ce soit un trouble ou que ce soit des comportements, il y a toujours des bonnes façons, des bonnes méthodes parentales de gérer ça. Souvent, les parents me disent il n'y a pas de mode d'emploi avec un enfant. Mm-hmm. C'est un peu ce que j'ai voulu écrire d'ailleurs avec le livre, le mode d'emploi, mais ça, c'est encore mieux d'être accompagné par un professionnel, un psychologue ou un neuropsychologue pour gérer efficacement puis de façon optimale puis retrouver une harmonie dans nos relations familiales, parce que ça peut causer beaucoup de détresse, ces comportements-là, à la maison.
Concrètement, de quelle façon on pourrait intervenir auprès d'un enfant qui présente des comportements d'opposition?
Bien, il y a différentes méthodes présentées dans le livre. Il s'agit aussi de cibler quelle est la source de ces comportements-là. Oui. Un enfant anxieux, bien, on va intervenir sur l'anxiété. On va chercher à gérer mieux son anxiété avec lui. Puis on se dit qu'en apaisant l'anxiété, soit par des moments de relaxation. Des fois, c'est simplement au retour de l'école en laissant l'enfant décanter avant de lui demander de ranger sa boîte à lunch, puis c'est différentes choses comme ça. Ce moment-là pour décanter va éviter la crise lorsqu'on va lui demander de ranger sa boîte à lunch. Il s'agit de mettre le doigt au bon endroit pour intervenir de la bonne façon. Puis c'est ce que je veux un peu présenter là, par le livre puis par nos séances quand j'en ai avec les parents. Des fois aussi, c'est souvent, l'enfant va nous demander quelque chose, on va dire non à l'enfant directement parce qu'il ne peut pas l'avoir. Bien, des fois, de simplement prendre un temps pour lui dire « Hey, t'aimerais ça, hein, voir le bonbon qu'on vient de voir dans le magasin ou le jouet, ça a l'air le fun, montre-moi-le, parlons-en, pourquoi c'est lui qui t'intéresse le plus?
Mm-hmm. »
Ce moment-là où on adresse le besoin puis l'envie de l'enfant fait qu'on lui dit non moins vite, il sent écouter l'enfant dans dans sa demande. Et puis, par la suite, c'est plus facile de dire « Bien, écoute, regarde, je le prends en photo avec mon cellulaire, puis ça serait une bonne chose à Noël ou à ta fête, on regarde si t'en veux encore, puis ça serait sur la liste. » Puis là, l'enfant va se sentir écouté. Fait qu'il y a différentes méthodes comme ça. Il y a aussi les méthodes, par exemple, de système de jetons ou de points, où à chaque fois que l'enfant fait quelque chose de bien, on renforce, mais il y a des méthodes, il faut l'appliquer, il faut bien l'appliquer, ce genre de système-là. Donc, c'est bien d'être encadré, soit par un professionnel. Le livre également présente la façon de le faire. Donc, il y a différents trucs comme ça qui peuvent être mis en place pour gérer l'opposition.
Identifier la source, ça me semble assez important comme première démarche. Lorsqu'on y voit une source d'anxiété, par exemple, au comportement d'opposition de notre enfant, est-ce qu'il y a lieu de penser à une certaine médication? Est-ce que parfois ça peut aider à traiter ces comportements-là?
Bien, la médication, c'est jamais un premier recours. Pour l'anxiété également, c'est rare qu'on va traiter ça à l'enfance avec des médicaments. On peut commencer à y penser à l'adolescence dans les cas un peu plus sévères d'anxiété. Mais il y a des bonnes méthodes comportementales pour gérer l'anxiété qui peuvent être enseignées par des psychologues ou des neuropsychologues, soit des méthodes de relaxation, des méthodes d'imagerie mentale où l'enfant s'imagine dans quelque chose qui l'apaise et qui le renforce. Il y a différentes façons où on peut adresser ça, où les parents aussi peuvent, par exemple, faire un coin dans la chambre des enfants, qui est un coin relaxation avec un genre de gros pouf dans lequel l'enfant peut s'écraser, une lampe tamisée, un peu de musique. Donc, c'est les façons d'adresser l'anxiété, puis aussi d'en être conscient qu'à un moment donné, l'enfant est réactif, pas parce qu'il veut être tannant
ou
désagréable
ou
déplaire, mais parce qu'en fait, ce qu'il vit en ce moment, ça le rend là, le vase complètement plein, puis tendu. Si le parent comprend ça, ça facilite l'action pour gérer l'anxiété avec l'enfant.
Et pour vous aider, l'opposition, ces enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs, chez 12h30, Benoît, vous n'allez pas partir sans le dédicacer à cette mère qui en aura grandement besoin. Je rappelle, Benoît Méringer, que vous êtes neuropsychologue et directeur de la clinique d'évaluation et réadaptation cognitive. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci.
Merci de l'invitation, Marianne.
Delphine Berger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice des services jeunesse et du projet Connais-tu la limite au Y des femmes de Montréal. Et là, pour nous parler de ce projet, justement, qui est une expérience de réalité virtuelle sur une thématique quand même assez délicate, le consentement sexuel. Ça s'adresse aux jeunes de 16 à 24 ans. Pourquoi avoir eu envie de parler aux jeunes de 16 à 24 ans de consentement sexuel?
Alors, on a vraiment voulu parler à cette tranche d'âge-là parce qu'on se rend compte souvent que, justement, ce sont ces jeunes qui ont une vision erronée, en fait, de ce qu'est réellement le consentement sexuel. Oui. Lorsqu'ils connaissent les notions, parce qu'ils ont eu... Ils ont été un minimum sensibilisés. Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'ils vont le mettre non plus en application dans leur vie. Alors, on voulait vraiment un projet qui puisse les rejoindre et vraiment qui puisse ressentir les émotions de ce que ça fait lorsque le consentement est complètement bafoué, finalement.
Oui. Il faut dire qu'en ce qui a trait au consentement sexuel, les notions peuvent être floues et on pose cette question si... La fille accepte de nous embrasser. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra avoir une relation sexuelle avec elle? C'est vraiment aussi de baigner le jeune dans cette réalité, de lui faire vivre des situations liées au consentement sexuel.
Oui, exactement. La situation commence, en fait, dans la vidéo où les deux jeunes flirtent ensemble et donc ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, on va dire. C'est au bout d'un moment où bon, le jeune homme va être insistant quand la fille va une première fois dire non. Et là, donc après, ça va s'enchaîner. C'est vraiment là où on a voulu que les jeunes filles et garçons se mettent à la place donc, cet avatar virtuel, donc la jeune femme. Mais souvent, donc, là, on va avoir des réactions bien différentes selon si c'est un jeune homme ou une jeune femme qui expérimente,
oui, voilà.
Exactement.
Comment ça fonctionne afin de pouvoir se plonger dans cette réalité virtuelle? On a des lunettes, je pense.
Oui, exactement. Donc, dans notre kiosque d'expérimentation, on a donc trois postes pour essayer. Donc, c'est un casque de réalité virtuelle, donc qui fonctionne avec un téléphone intelligent et un casque audio, donc pour le son, la musique, les paroles des personnages. Et donc, lorsque l'on met le casque, on est vraiment projeté donc en 360 degrés, c'est-à-dire que quand je porte le casque, je suis directement la jeune femme et en face de moi, j'ai quelqu'un donc, qui me parle. Et donc, si par exemple, je baisse la tête, alors à ce moment-là, je vais voir comme si j'étais dans le corps de la jeune femme. Donc, je vais voir les jambes de la jeune femme, ses bras, puis elle interagit comme si c'était moi, en fait, qui interagissais.
Oui. Pourquoi avoir choisi ce médium-là, qui est la réalité virtuelle, pour parler de ce sujet?
Ça nous permet, la réalité virtuelle, de vraiment, au lieu de passer le message comme en lisant des choses, en expliquant aux jeunes ce que c'est, là, ça permet vraiment à la personne de ressentir des émotions réelles. Donc, on est comme projeté dans le corps de quelqu'un. Et donc, ça permet d'avoir un impact beaucoup plus fort, en fait, parce que là, on vient toucher les émotions des personnes.
Ouais. Et aussi, tout le système de l'empathie, puisqu'on peut carrément se plonger dans la peau d'une jeune fille, d'un jeune homme. Je pense que c'est important de souligner qu'il n'y a pas de scène plus difficile. Là, on ne va pas citer à une scène de viol
non,
ou quoi que ce
tout.
Soit. Et ça, c'est un choix aussi.
Oui, bien sûr, parce que c'est un sujet qui est vraiment, comme vous le disiez au début, très sensible. Donc, on voulait faire comprendre le message, faire passer le message sans aller trop loin non plus dans l'agression. Donc, c'est quelque chose qui vient nous chercher tout en restant quand même... il n'y a pas de violence vraiment dans cette vidéo-là. Mais on arrive vraiment à notre but puisque les garçons vont nous dire comme j'ai jamais été projeté dans la peau d'une jeune femme. Puis là, je me rends compte de ce que ça fait quand quelqu'un insiste vraiment pour ce qu'elle veut puis ne prend pas en compte mes limites. Et malheureusement, les jeunes femmes souvent nous racontent plutôt qu'elles ont déjà subi ce genre d'expérience-là.
Oui, c'est que ce genre d'approche-là, Delphine, j'ai l'impression que ça ouvre la porte à un dialogue, que ce soit entre intervenants, mais je le souhaite aussi avec les parents ou tout autre adulte important dans la vie des jeunes adultes.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est généralement assez nombreux sur place lorsqu'on passe aussi la vidéo. On donne des ressources aux jeunes, mais on veut aussi être là parce que c'est un sujet qui est sensible. Et donc, les jeunes, souvent, autant les femmes que les garçons, ont envie de discuter après avec nous et d'en savoir plus sur cette notion-là. De temps en temps, c'est vraiment même les jeunes hommes nous disent comme ben, je pense que je suis déjà allée trop loin. Ouais. Malheureusement. Donc, on sent qu'on a une véritable portée, mais effectivement, on encourage après les jeunes à vraiment discuter avec un professionnel dans le cadre du milieu scolaire ou avec leurs parents ou un adulte qui peut être significatif pour eux. Ce qu'on fait dans le cadre de ce projet-là, c'est qu'en fait, le kiosque d'expérimentation se déplace dans les cégeps principalement, mm-hmm. un petit peu les universités puis les fins d'école secondaires. Donc, à ce moment-là, nous, on va aussi organiser des ateliers de discussion. On a eu un premier hier dans un collège. Donc,
Et ce, jusqu'en 2017?
Oui, le projet prend fin donc à la fin du mois de mars 2017. On espère beaucoup qu'on va pouvoir le continuer quand même, peut-être avec une autre subvention, d'autres financements.
En terminant, Delphine Berger, vous avez parlé souvent d'être dans la peau d'un jeune homme, d'une jeune fille, et j'ai l'impression que parfois des préjugés par rapport à... C'est souvent les filles qui ne connaissent pas leurs limites et les jeunes garçons qui la dépassent. Est-ce que le projet, les contacts que vous y avez créés confirment ces préjugés-là?
Oui, malheureusement, c'est un petit peu ça qu'on voit. Ce qu'on essaye de faire comprendre aussi, c'est que ce n'est pas, c'est ça qu'à la jeune femme de poser ses limites. C'est sûr, c'est très important pour nous que les femmes puissent s'affirmer, mais des fois, c'est plus compliqué que ça. Alors, on essaye aussi de faire comprendre, à toutes les personnes qui voient la vidéo, que c'est aussi très important, finalement, de s'assurer que l'autre personne, notre partenaire, et les mêmes envies que soi. Parce que des fois, on peut penser, effectivement, c'est pas forcément des personnes qui sont mal intentionnées. On peut penser que l'autre personne veut la même chose, et en fait, non. Ouais. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que le consentement est libre, éclairé et clair. Ouais.
Connais-tu la limite, le consentement en 360 degrés? Une façon d'ouvrir le dialogue, c'est en collaboration avec le secrétariat à la condition féminine. Delphine Berger, vous êtes coordonnatrice des services jeunesse et du projet Connais-tu la limite? Au Y des femmes. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
Le Salon de l'autisme TSA du Québec prendra son envol dans quelques jours, du 30 septembre au 1er octobre. Et pour nous en parler, mais également pour nous parler d'une des conférences, parce qu'elle sera conférencière le vendredi. Mélissa Boulanger, bonjour. C'est bien le vendredi, hein, pour être certaine, votre conférence?
Oui, bonjour. C'est bien le vendredi à 15h30.
Voilà, jusqu'à 17h30. Merci de la précision. Mélissa Boulanger, vous êtes massothérapeute spécialisée en massage d'enfants à besoins particuliers et également, je pense que c'est très important de le souligner d'entrée de jeu, vous êtes maman de deux garçons qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme, un déficit d'attention, modulation sensorielle également. C'est, je pense, ce qui vous a mené à vous formée pour une massothérapie spécialisée pour ces enfants.
Oui, exactement. En fait, c'est vraiment grâce à mes enfants là, que j'ai trouvé ma voie. Donc, c'est ça, en fait, à force de fréquenter des spécialistes là, comme les ergothérapeutes, que j'ai vu à quel point mes enfants bénéficiaient des pressions profondes. Ensuite, je me suis dit, ils ne sont sûrement pas les seuls à pouvoir bénéficier de ça, d'avoir des bienfaits. Donc, j'ai commencé à me former pour devenir massothérapeute, mais toujours en ayant l'optique de devenir pour enfants à besoins particuliers. Donc, ça n'existait pas ici. Ça existe aux États-Unis, mais pas ici. Donc, là, je me suis dit, OK, donc je fonce, je pars ça. Je me suis formée, en fait, en suédois, en shiatsu. Puis, en fait, ma technique est vraiment basée sur le shiatsu. Donc, c'est au sol avec des pressions, des étirements, tout se fait par-dessus les vêtements. Donc, c'est très bien adapté aussi avec des outils de repère dans le temps aussi là, pour les enfants. Donc, tout est adapté là, pour les enfants autistes, TDAH ou ayant des troubles d'anxiété.
Donc, vous pouvez utiliser une technique ou une autre selon le besoin ou l'état de l'enfant qui est devant vous. Quand je parle d'état, c'est aussi son état au moment où il se retrouve devant vous.
Oui, exact. En fait, moi, c'est sûr qu'avec la technique que j'ai créée, la technique MEBP, là, pour massage pour enfants à besoins particuliers, c'est vraiment au sol, par-dessus les vêtements. Donc, c'est vraiment ça, la technique. De temps en temps, on peut faire plus suédois, par exemple, avec de l'huile sur table, mais c'est, à ce moment-là, c'est pas la technique MEBP en tant que telle.
Mm-hmm. Donc, on comprend que vous êtes la première à avoir été formée ici au Québec pour ce type de massothérapie. Mélissa Boulanger, est-ce que depuis les années, d'autres massothérapeutes ont suivi vos traces?
Mais en fait, c'est ça, j'ai mis sur pied une formation, donc parce qu'il y a eu un article qui a été écrit dans la presse il y a 2 ans sur ma technique, puis là, il y a eu un boom, là, vraiment un grand intérêt des massothérapeutes pour se former. Là, ils me demandaient où je m'étais formée, et je me suis formée moi-même avec mon expérience de maman puis de massothérapeute, donc... j'ai mis sur pied une formation, puis maintenant, comme là aujourd'hui, là, j'enseigne dans une école de massothérapie à Granby. Donc, je vais former encore 10 autres massothérapeutes qui vont être certifiés avec la technique MEBP. Il y en a déjà 20 qui ont déjà été certifiés au courant des derniers mois. Je vais en former d'autres à Québec aussi en mars 2017. Donc, c'est ça pour que le plus d'enfants possibles aient accès à ce service-là. Mmh.
Lorsque l'on pense à une personne qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, Mélissa Boulanger, pardon, on pense souvent à tous les aspects sensoriels. Est-ce que ces enfants aiment se faire toucher?
En fait, tout dépend de comment ça se passe. Donc, j'en ai quelques-uns qu'au début, ils peuvent refuser de se faire toucher. Mais c'est vraiment, normalement, là, ça ne dure pas très longtemps. Je dirais que c'est plus l'appréhension des parents, des fois, qui va freiner le fait de venir nous voir en massothérapie. Mais la plupart du temps, c'est pas très long. Quand ils voient les outils, que ce soit de la routine, visuellement, c'est tout est affiché avec des pictogrammes. Déjà là, ça baisse beaucoup l'anxiété. Mm-hmm. Puis ensuite, si l'enfant refuse de se faire toucher, bien là, on peut faire une routine d'automassage, j'utilise un ballon, on peut utiliser plein d'autres accessoires qui peuvent tranquillement amener l'enfant à se laisser toucher. Puis c'est très, 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 très rare, là, que même en 30 minutes, que j'ai comme pas réussi à amener l'enfant à se faire toucher.
Il faut dire que vous incluez beaucoup les parents dans ce processus.
Oui, c'est ça. Le parent est toujours sur place. Moi, je préfère vraiment, surtout les premières fois, là, soit qu'il est présent dans la salle. La plupart des parents adorent ça. Premièrement, juste de voir leur enfant qui bénéficie de ça. Souvent, les parents deviennent très émotifs. Mm-hmm. Puis aussi, si jamais, je ne sais pas, l'enfant... pour X raison que ce soit, il aurait besoin de son parent proche pour au niveau de la sécurité, puis tout ça, il veut se faire rassurer, son parent est là. Mais j'en ai des fois que j'ai la salle d'attente à côté, la porte est toujours ouverte, mais le parent est là. Il y a des enfants qui, moi, je vais être toute seule. Bon, ils aiment ça aussi, là. Donc, mais le parent aussi est toujours impliqué. Je leur fais remplir les documents, on regarde ça ensemble, on regarde l'évolution aussi, on établit un plan de travail ensemble.
Mm. L'un des bienfaits observés, du moins que vous avez observé en tant que maman chez vos fils, Mélissa Boulanger, c'est que l'enfant est plus disposé à ses traitements. Donc, s'il voit une ergothérapeute de se faire masser avant un 30 minutes, lui permettra d'être plus réceptif. C'est un des bienfaits. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez pu observer?
Bien, en fait, ça peut augmenter la tolérance au toucher aussi. Donc, un enfant, justement, qui a une hypersensibilité au niveau tactile, un enfant qui toutes les étiquettes le dérangent, qu'il est très... il y a beaucoup de réactions sensorielles, mm-hmm. de défense sensorielle. Donc, tranquillement, d'apprivoiser le toucher. Après ça, ça a des répercussions dans sa vie. Là. Ça, c'est vraiment génial. Puis aussi, au niveau de l'anxiété, c'est sûr qu'on a un gros impact au niveau de l'anxiété là, pour faire baisser l'anxiété, des exercices de respiration, de bien occuper son corps. Un enfant qui a un TDAH, il l'hyperactivité, là, c'est très épuisant. Puis d'être capable de revenir dans un état de calme, souvent, ces enfants-là, ça peut arriver qu'ils savent même plus là, comment qu'on fait pour être calme. Donc, ça peut vraiment les aider à ce niveau-là aussi.
On est parfois réfractaire, Mélissa, à la nouveauté. Lorsque vous avez débuté ces massages spécialisés auprès des enfants à besoins particuliers, est-ce que vous avez vécu des obstacles par rapport à des médecins, par exemple, ou la science là, qui disait « bah, c'est pas prouvé, ça, cette affaire-là ».
Bien, en fait, quand on l'explique, c'est parce que au premier abord, le terme « massage », les gens vont penser sur terme avec de l'huile.
Oui.
Non, on n'est vraiment pas là. C'est pour ça que c'est vraiment technique MEBP. C'est très différent de ce qu'on s'attend pour un massage. Donc, quand on prend le temps de l'expliquer, c'est pour ça que j'aime autant faire des salons puis des colloques pour les parents, pour qu'on leur explique c'est quoi. Puis, aussitôt que les gens, ils savent c'est quoi, ah, oh, OK, c'est bon, parfait, super. Donc là, ils s'informent pour des questions. Puis, mais c'est vraiment briser la première barrière qui est le mot massage.
Oui.
C'est pour ça que plus on en parle, là, plus j'ai des étudiants, j'ai des massothérapeutes certifiés qui parlent de la technique. On a un partenariat avec la compagnie Kit Planet. Kit Planet, c'est une boutique de matériel spécialisé pour enfants qui est fait par deux ergothérapeutes. Donc, avec eux, on a mis sur pied vraiment quelque chose de bien, puis on peut sensibiliser les gens puis les informer sur c'est quoi la technique MEBP.
Ouais, il faut rappeler que vous, des personnes en robe de chambre blanche, là, vous n'en voyez pas souvent.
Non, pas tellement. Je dirais que les parents d'enfants à besoins particuliers, c'est comme mon deuxième créneau, parce que les parents, on n'a pas, en tout cas moi personnellement, aussi en ayant deux enfants, TSA, j'ai pas beaucoup de temps pour aller me faire masser. Donc, c'est intéressant, quand je me déplace à domicile, exemple, je vais faire le massage de l'enfant, puis après l'enfant, ben là, il est calme, fait qu'il va aller faire ses choses calmement ou il va aller se coucher. Et après ça, ben, c'est le temps aux parents.
Votre conférence, on le disait tout à l'heure, est le 30 septembre. De 15h30 à 17h30, vous allez aborder, j'imagine, cette spécialisation qui est la vôtre, Mélissa.
Oui, exactement. Donc, je vais parler un peu de mon parcours pour me rendre là. Ensuite, les bienfaits, là, vraiment plus en détail. Comment ça se déroule une séance. On va faire le tour un peu de tout ça, le service, à quel endroit on peut le donner. C'est pas mal. On fait pas mal le tour aussi. On peut même aller en clinique multidisciplinaire. Ouais, ça, c'est très intéressant, comme on disait tantôt, là, faire le massage avant que l'enfant aille voir un orthopédagogue ou un orthophoniste, par exemple.
Oui. Donc, salon de l'autisme, tsa.com, est-ce que vous savez s'il reste de la place?
J'ai pas de... Non, je le sais pas. Je sais que les salles sont assez grandes pour les conférences, donc là, je suis pas vraiment inquiète pour ça. Cette année, c'est à la place Forzani, donc j'étais là pour la conférence de presse. C'est vraiment un endroit incroyable. De toute façon, le salon de l'autisme, là, moi, c'est ma troisième année, puis les organisatrices, là, Joanne Leduc puis Sylvie Leguerrier, c'est des femmes exceptionnelles. Là. Donc, le salon, c'est un événement familial. C'est ce que j'aime le plus faire, là, rencontrer les familles, puis c'est vraiment deux jours de bonheur.
Et c'est pour ça que vous y participez. Oui. Mélissa Boulanger, c'est la première fois que vous y offrez une conférence?
C'est la deuxième fois. Puis c'est ma deuxième année de conférence. Puis cette année, j'offre un atelier aussi le samedi. Donc, un atelier parents-enfants sur la routine de massage avant le dodo.
Mm-hmm.
Donc, fait qu'on va s'installer là, 30 minutes là, par enfant. Puis je vais leur donner une petite routine, là, leur donner des petits conseils là, de massage avant le dodo.
Oui, parce que c'est bien de souligner que le parent lui-même peut devenir aidant dans cette relation d'apaiser son enfant et de prendre contact. Hein, on parlait du toucher, de cette importance-là qui fait parfois débloquer plein de petites choses chez l'enfant qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Et c'est très, très concret comme outil.
Oui, exactement. Ça passe par le toucher. Là, moi, souvent, quand je vais masser la région du ventre, là, c'est là, on est vraiment très proche, puis là, l'enfant va me dire des choses, là, vraiment va se confier ou va me... C'est vraiment particulier ce qui peut se passer, puis le parent aussi, je les invite souvent à refaire cette manœuvre-là avec leur enfant, puis ça peut vraiment créer une belle opportunité de communication entre les deux.
Mélissa Boulanger, je vous souhaite un excellent salon de l'autisme.
Merci.
Troisième édition du vendredi 30 septembre jusqu'au 1er octobre. Je le rappelle, vous êtes massothérapeute spécialisée en massage d'enfants à besoins particuliers. Ça a été un plaisir.
Merci à moi aussi.
Au revoir.
Bonne journée.
On l'a joint du côté de Victoriaville, Jessica Dessureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet pour la politique des aînés et la politique familiale du côté de cette municipalité des Bois-Francs.
Exactement.
Et là, pour nous parler d'un projet en particulier, PictoSécure, pour la sécurité des personnes aînées. Comment est né ce projet pilote, cette initiative qui est PictoSécure, Jessica?
En fait, on dit souvent que Victoriaville est une ville inspirante, mais on se laisse aussi inspirer. Alors, pour ce qui est de ce beau projet-là, ça part vraiment de la ville de Repentigny, une association pour les personnes malentendantes qui avait eu cette idée d'aider les premiers intervenants, donc soit en cas d'urgence, on peut parler des policiers, des ambulanciers, par exemple, lorsqu'ils ont à intervenir dans des résidences pour personnes âgées, leur permettre rapidement, d'un seul coup d'œil, de connaître la condition des personnes avec qui ils vont avoir à interagir. Donc, de connaître quelles sont les limitations physiques. Et l'étincelle est vraiment partie de ce côté-là. On sait que c'est un projet qui a été bien implanté à Repentigny et on a décidé de le faire à Victoriaville, à notre couleur bien à nous.
Oui, ça permet, c'est ce que je lisais, d'adapter les interventions, que ce soit des pompiers ou des policiers. On pense ici à quel genre d'adaptation, Jessica?
Oui. Je vais peut-être définir à quoi ressemble pour que les gens se fassent une idée en tête de qu'est-ce que c'est PictoSécure. En somme, c'est une petite plaquette signalétique qu'on vient poser sur le mur juste à côté de la porte d'entrée de chacun des résidents. Et sur cette plaquette, on retrouve des pictogrammes, dont le nom PictoSécure, des pictogrammes qui nous informent sur la personne, à savoir est-ce que c'est une personne à mobilité réduite, est-ce que c'est une personne qui a un problème visuel, une déficience ou encore des problèmes pour entendre. Et donc, à partir de ce moment-là, je prends l'exemple des pompiers qui pourraient toquer à la porte pour ne serait-ce que faire de la prévention pour le détecteur de fumée. Bien, s'il n'a pas de réponse, on va comprendre peut-être qu'il faut cogner un peu plus fort ou s'entendre préalablement avec la personne qui habite le logement. On peut penser en cas d'évacuation, je vais reprendre l'exemple d'une personne malentendante, peut-être que la personne n'entendra pas le système d'alarme. Donc, on sait que c'est des personnes qu'il va falloir rapidement aller rencontrer et apporter notre aide. Ce qu'on est venu faire avec le projet, parce qu'à Repentigny, l'idée d'apposer des pictogrammes vient vraiment d'eux. Eux, ils le faisaient avec des velcros sur la porte. Nous, ce qu'on est venu faire, c'est créer un outil complet. Donc, on a créé la plaquette signalétique où on a ajouté à ces pictogrammes également un code de couleur. Ce code de couleur, il est déjà commun dans toutes les résidences, j'aurais le goût de dire, à travers le Québec. C'est un code de couleur qui parle de l'autonomie. On va jouer avec les feux de circulation, c'est le repère qu'on a tous en tête. Donc, quand on est rouge, on est une personne qui n'est pas autonome pour sortir par nous-mêmes en cas d'intervention d'urgence. Vert, on est capable de descendre des escaliers et sortir. Donc, ce code de couleur qui était identifié d'une façon bien différente d'une résidence à l'autre, des fois que c'est un autocollant qu'on mettait sur la porte, on est venu l'intégrer à même la plaquette signalétique. Donc, en ayant toutes ces informations-là, on sait vraiment de quelle façon bien intervenir avec le résident ou la résidente.
J'imagine que vous avez dû travailler de pair avec les policiers de Victoriaville ainsi que l'équipe de pompiers.
Tout à fait. C'est vraiment un bel exemple de concertation, ce projet-là. Même qu'à l'origine, c'est une résidence de Victoriaville, la Villa Saint-Georges, qui voulait améliorer la qualité de vie de ses résidents, qui a dit « Nous, on a entendu parler de ce projet-là, on veut le mettre de l'avant. » Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire même un projet pilote avec cette résidence qui nous parlait de leurs préoccupations. Et on a assis à cette même table, comme vous l'avez mentionné, la sécurité publique, également la Sûreté du Québec. Donc, tous ensemble, on a travaillé Montpellier, la ville de Victoriaville. J'ai ma collègue aussi en accessibilité universelle. Alors, on a fait une belle équipe pour en arriver à cette fameuse plaquette signalétique qui mentionne également le nombre de résidents dans le logement. Parce que, justement, notre partenaire, la Villa Saint-Georges, nous disait quand nous, on doit venir vérifier si le logement a bel et bien été évacué, c'est pratique de savoir est-ce qu'il y a un ou deux occupants dans le logement.
Oui.
Et on a ajouté une petite languette qui nous permet, une fois tiré, d'identifier comme quoi le logement a bel et bien été évacué.
Jessica, je comprends la plaquette signalétique pour des personnes qui vivent en fauteuil roulant, par exemple, avec un déambulateur. À quoi on a pensé pour des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, par exemple?
Tout à l'heure, j'ai nommé projet pilote. Pour nous, c'est important de le faire de cette façon-là, même si on savait qu'il y avait un beau succès du côté de Repentigny. Je pense qu'ils sont rendus à quelques 20 de résidences qui ont ce projet-là. Nous, on voulait le faire, ce projet pilote, pour ouvrir un dialogue avec les résidents pour voir est-ce que les pictogrammes, donc les trois catégories que j'ai nommées, sont suffisantes ou on a envie d'en intégrer une nouvelle. Donc, c'est sûr, pour tout ce qui est des problèmes cognitifs, on en a parlé, mais on ne voulait pas le mettre de l'avant tout de suite. On voulait voir les réactions des gens. Le projet a été lancé à la fin août, donc on est encore en mode laboratoire. Ça va perdurer jusqu'au printemps. On va récolter les commentaires. Et si les familles, les gens disent oui, ce serait pertinent, oui, on se sent à l'aise aussi de l'afficher, bien oui, fort probable qu'on pourra l'intégrer. Il faut dire que tout ce qui est des pictogrammes se fait vraiment sur une base volontaire.
Mm-hmm. Vous vous êtes inspiré de PictoSécure de Repentigny. De quelle façon vous l'avez adapté pour la ville de Victoriaville?
Bien, un peu comme je le mentionnais d'entrée de jeu, dans le cas de Repentigny, les pictogrammes étaient mis sur une porte à l'aide de Velcro. Et nous, on a davantage voulu en faire un outil complet, d'où l'idée de venir intégrer le code de couleur qui nous parle de l'autonomie, de mentionner le nombre de résidents et d'intégrer la fameuse tirette pour indiquer que le logement a été évacué. Donc, on l'a bonifié de cette façon-là, d'une part, pour l'outil physique et également en le faisant comme un projet pilote. Il y a tout un autre volet qu'on veut travailler parce que, bien sûr, la sécurité, c'est l'élément principal de PictoSécure, mais nous, on voit autre chose, c'est-à-dire tout le volet socialisation, apprendre à mieux se connaître pour mieux cohabiter ensemble. Donc, on part de la prémisse qu'on pense si les gens, le voisin connaît mieux la voisine, va dire, bon, bien, si elle ne me répond pas quand je lui parle, c'est peut-être parce qu'elle ne m'entend pas bien. OK, on se comprend mieux, on va travailler un peu différemment.
Oui.
La même chose pour les nouveaux employés dans une résidence. C'est étonnant pour les résidents de toujours expliquer quelles sont leurs limitations physiques. Là, d'un rapide coup d'œil, on va le savoir. Même chose pour les familles, etc. Donc, le volet socialisation, on est venu le bonifier avec un partenariat avec la Villa Saint-Georges où il y aura une série de conférences où on va aborder ces limitations physiques, on va parler des outils qui existent, puis on va parler de la réalité. Donc, on va jaser beaucoup finalement. Tout le volet socialisation, c'est un ajout qu'on a fait du côté de Victoriaville.
Et en même temps, Jessica, une personne aînée qui se sent en sécurité a plus tendance à s'impliquer dans sa communauté. Et je trouve que Victoriaville, en mettant de l'avant PictoSécure, lance un message très fort à sa population en disant, oui, d'une part, on vous veut en sécurité, en santé, mais parce qu'on a envie que vous soyez partie prenante de notre vie, de notre quotidien.
Ah, tout à fait. La ville de Victoriaville reconnaît vraiment la contribution des aînés, que ce soit par leur talent, leur savoir-faire, toute l'aide qu'ils peuvent apporter, je pense, aux bénévolats. Puis ce qu'on veut, c'est être une société inclusive qui permet à tous de pouvoir s'impliquer puis développer son potentiel. Donc, vous avez bien lu tout ça. Effectivement, c'est le message qu'on veut envoyer.
En terminant, le projet pilote a comme visée de munir 300 logements d'une plaquette signalétique. Vous en êtes où dans cette installation? Bon, on comprend que ça fait quelques semaines, là, seulement que vous avez démarré.
Oui, c'est ça. On est au tout début, mais l'installation des plaquettes est pratiquement terminée. On s'était mis le mi-octobre au maximum. Donc, on est vraiment dans nos dernières installations.
Okay.
Et comme je vous disais, au cours des prochaines semaines, on va commencer les conférences. Et il faut dire aussi que dès le début du processus, on est allé rencontrer les résidents. Donc, on n'a pas installé les plaquettes comme ça. On a fait deux rencontres d'information où les résidents, où les familles étaient présentes. Et déjà, le dialogue a commencé. Tout à l'heure, vous nous avez demandé est-ce qu'il y aura un pictogramme, par exemple, pour l'Alzheimer, ben déjà, un monsieur dans la salle a levé la main en disant « Pourquoi il n'y a pas un pictogramme pour les problèmes d'allocution, par exemple? Mm-hmm. » Donc, c'est déjà mis dans la mijoteuse à idées, si je peux dire ainsi. Et on va prendre les commentaires. Il y aura aussi une évaluation qui sera faite à la toute fin pour nous donner une bonne idée dès le printemps. Mais déjà, je peux dire que le téléphone sonne beaucoup, que ce soit de la part des autres résidences, même des villes avoisinantes qui veulent implanter le projet. Donc, je pense que c'est un projet qui va rayonner.
Ouais. Et pour les proches, la famille de ces aînés, ces personnes aînées, ça doit être assez sécurisant aussi de savoir que Picto Sécure est là pour veiller un peu.
Oui, oui, vraiment. Puis moi, j'ai un témoignage qui m'a tellement fait du bien à entendre quand on a fait cette rencontre d'information. Une dame dont la maman fait partie de la résidence La Villa Saint-Georges et elle me disait qu'elle avait été bénéficiaire, aide aux bénéficiaires toute sa carrière. Donc, elle a travaillé beaucoup avec les aînés. Puis elle a dit, j'aurais tellement aimé avoir ça, moi, quand j'avais ma carrière. Elle dit, c'est tellement aidant. Puis c'est rassurant maintenant, moi, que je sais que ma maman est dans une résidence pour personnes âgées. Elle voyait toutes les possibilités, oui, pour la sécurité, mais aussi pour la socialisation.
Et en terminant, quelle sera la suite? Est-ce que vous avez déjà quelques pistes, Jessica?
Bien, on veut que ça fasse boule de neige, puis pourquoi on a fait un projet pilote, c'est qu'on veut documenter notre démarche. Donc, chacun des pictogrammes, de rapide coup d'œil, on sait la mobilité réduite, qu'est-ce que c'est, mais on veut vraiment venir le détailler pour que le projet, quand il sera implanté ailleurs, conserve la même base pour qu'on ait vraiment un cadre de référence et qu'on soit très pertinent dans nos interventions futures.
Jessica Dessureau, vous êtes chargée de projet pour la politique des aînés et la politique familiale du côté de Victoriaville. Oui, merci de nous avoir parlé de ce projet pilote qui est Picto Sécure.
Ça fait vraiment plaisir. Bonne journée à tous.
Au revoir. Dernier segment de l'émission que j'accorde à un coup de cœur. Et aujourd'hui, je vous parle de ce livre écrit par Arnaud Granata. C'est publié aux éditions La Presse. Le pouvoir de l'échec qui est extrêmement rafraîchissant dans son approche. Oui, on parle de l'échec d'une façon qui fait du bien et c'est très novateur dans ses propos. Arnaud Granata a eu comme point de départ un échec qu'il a vécu lui-même, adolescent à 15 ans, où il a vu sa carrière de musicien se terminer de façon assez abrupte. Donc, il a été refusé au cycle supérieur du Conservatoire national où il étudiait en France, son pays natal. Et malgré sa souffrance, le jeune homme y a trouvé un point de départ, en fait, pour aller plus loin. Je vous lis un passage qui est quand même assez éclairant. Arnaud Granata nous dit « Mais cet échec en dit aussi beaucoup sur ce que l'on ne nous apprend pas à l'école et sur ce dont personne alors ne m'avait jamais parlé. On peut entreprendre des choses pour le plaisir et ne pas viser sans cesse la compétition, la réussite ultime ou le dépassement de soi. » On peut aussi expérimenter des choses, essayer, se planter et ne pas en faire tant d'histoires. Ce livre-là, au départ, voulait mettre en lumière le parcours d'entrepreneurs qui avaient vécu des échecs et qui en avaient fait, en étaient décomplexés et en avaient fait par la suite des réussites. En effet, le livre présente le portrait de plusieurs entrepreneurs bien connus ici. Entre autres, on peut penser à Éric Giasson, lui qui est cofondateur du studio du yoga Wanderlust. On peut penser aussi à Caroline Néron, Martin Junot, le restaurateur, Nicolas Duvernoy de Pure Vodka, Christiane Germain, coprésidente du groupe Germain, mais aussi tout ça est mis en relief par des spécialistes, que ce soit la psychologue Rose-Marie Charret ou encore le professeur en adaptation scolaire Égide Royer, qui sont là pour, oui, commenter, mais aussi offrir leur réflexion de spécialistes. C'est un ouvrage qui est à la fois très inspirant et qui fait du bien, comme je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai notamment retenu les passages de Christiane Charrette, elle, animatrice et productrice, peut-être parce que je suis moi-même derrière un micro et que j'avais envie de voir qu'est-ce qu'avait à dire Christiane Charrette sur l'échec. Elle dit, entre autres, qu'elle a appris Christiane Charrette, à gérer ses échecs en équipe. Je suis la reine des idées noires, je ne connais pas le fond du puits. Rater une émission pouvait m'anéantir si je n'avais personne avec qui en parler. Mais ce qui est extraordinaire dans le fait de se réunir avec son équipe après une émission, c'est qu'un échec peut soudainement devenir créatif. D'ailleurs, Rosemarie Charret y parle de toute l'importance aussi de l'éducation. Comment on apprend l'échec à nos enfants? Comment on les prépare à ça? De cette peur inconsciente qu'on a aussi de la réussite et aussi qu'il faudrait voir l'être humain d'une façon plus globale que par ses réussites et par ses échecs. Un livre que j'ai beaucoup apprécié, Arnaud Granatin, Le pouvoir de l'échec. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission de C'est bon pour la santé. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console, Anne-Laure Janson à la recherche. C'est Christiane Campagna aux médias sociaux de cette émission. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h. Il y a différentes façons de nous joindre. Ça peut être par téléphone via notre site web canalm.vusezvoix.com. On est également bien présent sur Twitter et sur Facebook. Marianne Paquette au micro. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye. Et puis, n'ayez pas peur d'essayer. L'échec, ça tue pas personne et ça peut être créatif.